Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur 48FM, nous sommes le samedi 13 janvier 2018, il est 10h et vous écoutez L'erreur est urbaine.
L'erreur est urbaine.
J'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour une émission un peu particulière, puisque ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà, nous fêtons cette année un anniversaire, celui des 10 ans de la SBL Urbagora. Vous le savez ou non, Urbagora est l'association qui produit cette émission et j'aurai le plaisir de retrouver mes collègues et administrateurs plus tard pour un grand dossier consacré à la fois à un retour sur les 10 années écoulées, 10 années de lutte urbaine, de propositions et d'idées pour la ville, mais aussi pour donner un aperçu du programme un peu particulier qui s'annonce. Nous en profiterons également pour parler du rôle de l'associatif dans les dynamiques urbaines et du rôle spécifique qu'Urbagora, justement, a pu et peut jouer sur ces questions à Liège. Au sommaire également de cette émission, le retour du journal des luttes, où nous évoquerons la loi anti-squat qui a été votée en octobre dernier au Parlement fédéral, avec Vince du Créaction qui nous rejoindra tout à l'heure, mais aussi l'immanquable chronique de Pavel qui commencera cette émission, la chronique cyclable de Mathieu qui peut-être nous parlera de sa grand-mère, d'où qui pompera à nouveau honteusement sur un bouquin sa chronique, Lisa de Fischer qui revient pour sa chronique architecture, et en toute fin d'émission, un peu avant midi, nous aurons le grand plaisir d'écouter Fabienne Laurent nous raconter sa ville dans la rubrique Dis-moi ta ville. Ajoutez à ça quelques morceaux de musique éclectique et vous aurez et tous les ingrédients de L'erreur est urbaine, l'émission qui parle de la ville et de ses habitants et qui commence l'année nouvelle avec énormément de plaisir et d'enthousiasme.
L'erreur est urbaine.
On commence tout de suite avec la chronique de Pavel. Salut Pavel.
Salut Baptiste.
Alors, tu parles d'événementiel urbain, si j'ai bien compris aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait.
On t'écoute.
Bah, ça y est, les fêtes sont finies. Le retour au boulot, la fin des congés, retrouver le rythme du quotidien, c'est pas toujours réjouissant. Alors ce mois-ci, je vous propose de vous replonger quelques instants dans ces festivités et leur place dans la ville. Le marché de Noël d'abord, qui vient à peine d'être démonté. Enfin, village de Noël de son appellation officielle, évidemment. On s'en gargarise de ce marché de Noël à Liège, un des plus grands et des plus anciens de Belgique, paraît-il. La première édition a pourtant eu lieu en 1986. On est loin de la tradition centenaire à laquelle rêvent certains. Les années 80, donc, voient une dizaine de commerçants occuper la place du marché, puis peu à peu, de nouveaux participants s'emparent de l'îlot Tivoli, de la place Saint-Lambert, où les travaux de transformation avancent, puis, plus tard, de la rue Vinavdil et de la place Cathédrale. La SBL Enjeu, qui organise chaque année ses festivités, investit dès la seconde édition dans les chalets en bois que l'on connaît aujourd'hui et qui vont donc se multiplier dans le centre-ville. En soi, le concept est intéressant. Derrière le nom Village de Noël ne se cache pas seulement un simple marché, mais bien l'idée d'une petite société temporaire avec son mailleur, son conseil villageois et son église. Dans les faits, pas sûr que quand on va boire son vin chaud ou manger sa poutine, on en ait vraiment conscience. Mais l'intention est là. En tout cas, ce village est très présent dans la ville, dès la fin novembre et jusqu'à la fin décembre. Plus d'un mois durant, on circule alors parmi les chalets et les chalands, comme on peut. On s'éreinte à trouver le chemin le plus court d'un point A à un point B, restant coincé derrière les amateurs de tartiflettes, les contemplateurs d'artisanat et les badauds aux pas incertains. Mais le village de Noël n'est pas le seul événement qui s'empare de Liège pour un moment prolongé de l'année. Les croustillons, les attractions, les laquements, je veux bien entendu parler de la foire d'octobre. Avec son kilomètre de long et ses quelques 1 500 000 visiteurs, il s'agit d'un moment qu'on peut difficilement manquer à Liège. Cette foire de Liège existe, selon certains, depuis le 8e siècle. C'est cependant en 1687 que la foire dite de Saint-Simon et Saint-Jude va supplanter et absorber les autres foires de la ville. En durant 2 semaines, dès le 28 octobre, sur la Batte. Et oui, l'emplacement actuel de l'événement, sur le boulevard d'Avroy, ne date que de 1854. Plus encore, cet emplacement était alors censé être temporaire, en attendant la fin des travaux de réaménagement des quais. De même, la foire ne devient véritablement d'octobre qu'en 1871, le conseil communal cherchant ainsi à éviter les intempéries du mois de novembre. Aujourd'hui, pourtant, la foire se tient bien du 30 septembre à la mi-novembre, soit 6 semaines d'occupation du boulevard, mais surtout du parc d'Avroy, par la foire, ses visiteurs et ses forains. Encore une fois, un mois et demi où la vie de la ville, des habitants, est rythmée mais aussi parfois dérangée par un événement temporaire, mais annuel et long. Car c'est peut-être là un problème que l'on oublie parfois. Le village de Noël, la foire d'octobre, mais aussi tous les autres, Quinzou, village gaulois, épicurial, etc., Ces événements apportent bien de l'animation, une dynamique dans la ville qui profite certainement à ses commerçants et à sa vie en partie, qui n'apprécie pas en effet à l'occasion de siroter son vin chaud à l'ombre de la grande roue ou de s'étouffer avec le sucre impalpable de ses croustillons. Mais ces événements apportent aussi leur lot de soucis. Ils sont bruyants, voire très bruyants par moments. Les riverains de la foire d'octobre ne me contrediront pas sur ce point. Ils sont invasifs également, au point où ils peuvent abîmer parfois durablement les lieux qu'ils occupent, pourtant temporairement en principe. Ainsi, on voit bel et bien chaque année le même balai recommencer dans le parc d'Avrois. Les forains, une fois partis, laissent un des grands espaces verts liégeois panser ses plaies. Les arbres sont parfois abîmés, les pelouses défrichées. Pendant les mois suivants, les ouvriers communaux tentent, tant bien que mal, de soigner ces cicatrices et y parviennent, peu avant que ne se déroule la foire suivante. Finalement, on peut se demander à quel point ces événements sont véritablement temporaires. Regardez l'espace Tivoli, par exemple, entre la place du marché et la place Saint-Lambert. Serait-il ce triangle de gravier prévu à la construction qui n'a jamais été réalisé s'il n'était pas aussi utile pour la tenue des différents marchés ou autres concerts, chacun étant toujours temporaire, toujours ponctuel? En résulte un espace indéfini, un terrain vague en plein centre-ville, tout juste bon à être rempli à l'occasion. Ces occupations temporaires conditionnent en fait de façon permanente les espaces qu'il occupe. Sans pour autant que ceux-ci ne soient aménagés en conséquence cependant. Alors que la ville de Liège défend son plan PEPS pour un ménage vert, il est incohérent d'accepter qu'un des grands parcs liégeois soit défiguré annuellement. Alors que l'on plaide pour la densité urbaine, un retour à la ville, il est grotesque de conserver une véritable friche en plein cœur de la ville pour la tenue d'événements. Trouvons donc des solutions pour ces espaces. Soit que l'on les aménage en conséquence, en des structures réfléchies, adaptables et appropriables, même hors des moments de ces événements. Soit que l'on déménage ces événements en des lieux et moments qui leur sont plus appropriés. Après tout, je l'ai dit, ni leur lieu, ni leur durée, ni leur moment n'a été définitif dans l'histoire de la ville. Peut-être est-il temps à nouveau de se pencher sur les caractéristiques de ces événements et sur leur pertinence ?
Merci Pavel. Et je remarque que tu as négligé de citer le concours d'idées justement que Urbagora vient de lancer et dont tu es le principal artisan justement. C'est un concours d'idées sur Tivoli, peut-être un petit mot ?
Ah oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que l'espace Tivoli, pour les 10 ans de Urbagora, et à travers le festival Avril en Ville, on organise ce grand concours d'idées ouvert à tous et à toutes, de tout âge et de tout milieu, un grand concours d'idées donc pour le réaménagement de l'espace Tivoli, dont on proposera une exposition des différentes propositions aux souvenirs. Au tout début du festival.
Oui, et puis vous retrouverez sur le site d'Urbagora évidemment toutes les informations ad hoc ainsi que sur la page Facebook de l'émission que je vous invite à aimer. Merci Pavel.
Merci Baptiste.
Et on continue tout de suite avec le retour, je le disais en introduction, du Journal des Luttes. Et je reçois vite du Créaction.
L'erreur est trop belle. Journal des Luttes.
Qui dit lutte urbaine pense immédiatement à un groupement de riverains qui s'oppose à la construction d'un parking, d'un lotissement, d'une tour mégalomane dans le paysage urbain. Pour autant, cet aspect peut être pris de manière bien plus large. La question des luttes traverse des enjeux beaucoup plus variés, en fin de compte. On pourrait parler de lutte contre la précarité, de lutte pour la culture, de lutte sociale, etc. Dans ce cadre-là, l'invité du jour vient pour évoquer une loi clivante sur un sujet clivant qui touche à toutes ces questions à la fois. Il s'agit de la loi dite anti-squat qui a été votée au Parlement fédéral en début d'octobre dernier, loi qui fait l'unanimité du secteur associatif contre elle, et dont vient nous parler un éminent représentant du mouvement squat à Liège, Vince, qui vient de quitter le collectif du Créaction, qui était ce squat de Bressou qui a dû déménager. Bonjour Vince.
Bonjour.
Alors d'abord, peut-être pour contextualiser un peu, est-ce que tu pourrais faire, peut-être pas un historique exhaustif, mais en tout cas rappeler un peu ce qui est le mouvement squat en Belgique, et son histoire dans les grandes lignes et son actualité?
Voilà, c'est pas un mouvement qui est propre, tout à fait propre à la Belgique. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui est universel et mondial, avec des pratiques qui, je pense, se retrouvent quand même dans un peu partout. Alors chaque squat est très différent et des manières de fonctionner différentes, mais voilà. Alors le squat, c'est peut-être profiter des brèches que le système laisse ouvertes pour s'y engouffrer. Savoir ben voilà d'occuper des bâtiments qui sont vides. Alors il y a différentes volontés là-dedans. Il y a d'abord une volonté d'habitat et après pour certains lieux il y a aussi une volonté d'action socio-culturelle, on peut dire ça comme ça. Qui y a la volonté de pouvoir rendre accessibles toutes ces activités différentes de manière très démocratique, voire libre ou gratuite. Donc ça veut dire que souvent bah, c'est inscrit dans une dynamique de quartier. C'est en lien avec le quartier où les lieux sont occupés.
C'est ça, c'est à la base une réflexion sur, enfin une réflexion, même pas une réflexion, une action très concrète sur des questions du logement, qui est une réponse à la crise du logement à la naissance du mouvement squat dans les années 70.
Oui. Alors bah oui, c'est deux axes. Hein. C'est vraiment, enfin moi je connais, j'ai toujours occuper des lieux dans lesquels on pratiquait à la fois l'habitat et à la fois des activités. Donc c'est vraiment les deux axes qui sont juxtaposés. C'est l'habitat, c'est l'aspect habitation et développement d'activités. Voilà.
Alors pour revenir un peu à l'actualité, le mouvement squat à Liège, il est encore vivant. Tu sais dire si ce mouvement, faire un état des lieux de ce mouvement aujourd'hui à Liège.
Il était écrit dans un petit fanzine qui est collé sur les murs. Je me souviens plus du nom. Le Créaxo est celui qui est le plus dégueulassement reconnu peut-être comme lieu. Par sa punkitude peut-être, qui a encore une fois ben, dû bouger lui pour rester quand même toujours dans ce même quartier de Bressoux, mais avec quand même un petit peu moins de confort. Voilà, il y a toujours, donc le Créaxo existe toujours, il a bougé, il s'est rapproché des voies ferrées. Mais c'est, voilà, il n'y a toujours pas une perspective de pérennisation dans le temps, parce que c'est toujours donc sur cette même zone dont la SPAC est propriétaire et qui va donc dépolluer, réhabiliter le site, l'entièreté du site, comme ça a déjà commencé d'ailleurs, en vue de faire ce fameux tram.
Et donc, début octobre 2017, donc c'est très récent, soudain dans l'actualité politique surgit une loi anti-squat, une loi qui vise à, on va dire, renforcer les droits des propriétaires sur les bâtiments. Loi qui n'a même pas été demandée en fin de compte par l'association des prioritaires, dont la réaction a été de dire d'abord les associations de propriétaires, dans un premier temps, oui d'accord c'est bien, mais en vrai c'est pas du tout notre priorité. Comment le mouvement squat voit cette loi?
Le mouvement squat voit cette loi dans la mesure où effectivement de toute façon c'est pas énormément préoccupé de la vie des propriétaires, mais on sait ce qu'il est. Mais d'une autre part, effectivement, c'est ce dont on s'est plus préoccupé, c'est l'aspect du côté des occupants. Savoir que effectivement, ben maintenant, c'est vraiment une démarche qui est criminalisée, quoi. Donc qui est passible d'amendes, qui sont relativement élevées et voire même d'emprisonnement. Alors bon, je pense que surtout ici à Liège. Avant que quelqu'un ne soit en cellule pour une action d'occupation, je pense qu'on a de quoi voir venir. Mais en attendant, voilà, c'est ce qui se profile dans l'avenir, quoi.
Et les réponses à apporter à ça, quels sont les... est-ce qu'il y a un positionnement, toi tu portes un positionnement particulier sur justement l'avenir de, bah, sur les questions de logement notamment, parce que finalement le squat ça a été aussi une, enfin c'est aussi une opportunité pour les plus précarisés d'avoir un moment un toit sur la tête. La criminalisation évidemment n'apporte aucune réponse positive pour ces gens-là.
Non, bien sûr. Alors bah, c'est tout un débat de fond. Et je sais que ça peut être débattu très très longuement. Et voilà, moi j'ai l'impression, bah, ça correspond aussi à mon parcours personnel, où moi je commence aussi à être peut-être un peu épuisé de cette façon d'occuper, à savoir qu'on ne sait jamais pour combien de temps on va pouvoir être sur une place ou un lieu, et donc c'est très difficile d'y établir des projets dans la temporalité, quoi. Même si c'est une temporalité courte, on ne le sait jamais. Donc c'est voilà, il faut toujours garder cette force et cet espoir pour rentrer dans les choses avec conviction et voilà, et les faire et y croire, quoi. Donc ça c'est d'un côté personnellement moi je suis un peu épuisé de cette façon de faire, et je pense que d'une autre part l'immobilier est vraiment en train de grimper en flèche, et donc les opportunités d'occuper des lieux se raréfient de plus en plus. Et donc nous, dans la perspective de retrouver un lieu pour la création, on a visité pas mal de choses dans des zones qui sont des zones périurbaines, mais où d'une part la population qui vit autour des lieux potentiellement occupables n'a absolument pas l'habitude de voir ce genre de dynamique dans son quartier, et a fortiori donc les autorités. Donc moi, la réflexion que j'ai eue, c'était peut-être d'essayer de créer une structure à l'identique, peut-être pas à l'identique, mais inspirée, par exemple, de la structure à Bruxelles qui s'appelle Comuna, et qui est en fait une interface entre les occupants et les propriétaires, et qui permet d'établir des baux d'occupation temporaires. Donc ça veut dire que là, d'une part, on connaît un premier temps d'occupation dans la temporalité, et qui permet aussi peut-être alors du coup effectivement de rassurer les propriétaires, les autorités, et de faire un travail encore une fois avec les gens du quartier, et qui permettent une intégration plus facile dans le quartier. Et donc voilà, il reste quand même pas mal de lieux occupables, mais qui sont plutôt en zone périurbaine.
Super, ben, merci beaucoup d'être venu, et n'hésitez pas à suivre les activités du Créaction sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'il y a quand même globalement un agenda culturel assez riche qu'on invite tous nos auditeurs à suivre. Merci beaucoup.
Oui, au revoir.
Bonne journée.
Oui, merci.
Et pour notre part, on continue tout de suite avec un peu de musique. On écoute Moshe Elan, Résignation, parce qu'il n'y a pas que Liège dans la ville, il y a aussi Charleroi.
Déclarer entre les états d'esprit que les pensées limitrophes ferment leurs frontières. Je m'esquive, les tranchées séculaires continuent de s'élargir. L'ignorance est cultivée comme terre fertile, c'est le vrai crime. Faut-il entre libre arbitre et verset propre? Faut-il se battre pour vivre à mille ou se laisser mordre? Destin versatile, récipient maîtrisable, chemin tracé sur ce champ stylé, méprisable. Donc je fouille vers l'arrière quand il pousse en avant. Je vois pas la victoire de l'humain quand il se couche dans l'urgence. Ces histoires de maisons savantes contre foi sans raison apparent créent une foison de débat aux conclusions. N'apprends donc si c'est ça l'évolution, c'est dommage pour les gens car ils crèveront. En hommage pour les dirigeants qui se relèveront, pour picorer fromage restant et picoleront pendant le nettoyage par le sang. Croissance naissance à coups d'hormones synthétiques. Merci la science de porter cette couronne d'améthyste. La sagesse se mesure sur compte en banque. Désormais, du coup, je suis turbulent par nature. C'est le remède contre le règne de la tolérance, comble de l'autonomie suprême. Tolérance court sur cet après-midi superbe. On n'est plus dupe, plus d'heures sup pour la boulimie de connaissances caduques qui font mourir vite. Oui, cette jeunesse est un culte, mais mieux vaut ça qu'un culte cupide. Je veux pas être un adulte car je veux pas d'un avenir stupide. Je me construis une catapulte avec un élastique cassé. J'ai pas de machine à remonter le temps, je peux rebâtir le passé. Bon, je me perds trop dans ce genre de tournure ridicule, non-sens absolu. Car rien dans mon écriture ne recule, je mets de la bouffe dans ma panse, des fringues sur mon cul, mais je me plains, foutu. Délire absolu, non, je suis pas mal dans ma peau, pourtant j'y suis pas bien non plus. Je me retourne le cerveau quand je trouve que sa place n'est pas au-dessus. Heureux d'être malheureux sur ce continent confortable, on râle deux minutes à l'heure de table, puis on repart. On râle deux minutes à l'heure de table. J'ai peur de la rime facile, vulgaire comme un string ficelle, braillé par un imbécile, noyé dans les décibels. J'effleure du bout de mon fusain une stupeur tranquille que je fusionne à du venin sur cet axe textuel. J'emmerde la frime gratuite façonnée pour les ribambelles de flambeurs d'artifice, acteurs de la tendance actuelle. Ils crient tous fuck Sarkozy, pourtant gistèle des amateurs du sacrifice de la population africaine. Et clair que le lien existe si tu crames la chandelle par les deux trous que t'attends d'elle. Sexe, drogue, alcool comme amuse-gueule. Et tu m'étonnes que tu chiales quand tu te retrouves seul. Je suis le premier à comprendre l'envie d'en profiter jeune. Blasé par un avenir joué sur PlayStation. Chaque génération veut s'écarter de la précédente claque. Pénétration, aller plus loin, on dit les temps de se résoudre à être heureux. Quoi qu'il en soit, des coups de fil après fil, le tissu qui nous déçoit. Chercher la poudre dans le filtre, la foudre dans le froid. La résignation défile comme un film qui ne finit pas. La résignation défile comme un film qui ne finit pas. Qui ne finit pas. La résignation défile comme un film qui ne finit pas.
Nous sommes le samedi 13 janvier 2018 et en cette début d'année, vous êtes de nouveau sur 48 FM à écouter l'Erreur est urbaine. On continue notre tour des chroniques habituelles avec Mathieu qui vient nous parler à nouveau de vélo après nous avoir raconté l'histoire de sa grand-mère dans les campagnes bourguignonnes, après nous avoir honteusement pompé un texte qui parlait de la différence fondamentale entre le vélo et la bicyclette. Il nous revient avec à nouveau son bouquin dans les mains, donc m'est avis que le plagiat continue. Salut Mathieu.
Salut Baptiste.
Tu parles de quoi ?
Eh ben encore de bicyclette et de vélo, mais sauf qu'aujourd'hui, on va essayer de clôturer la question de manière assez arbitraire de cette différence entre le vélo et la bicyclette avec un texte qui s'appelle « La bicyclette et le vélo ». Je ne me suis pas foulé. Ensuite, un autre thème, pas tout à fait sans rapport, l'anarchie à bicyclette.
Ça va l'être rigolo. Allez, on t'écoute.
Pour commencer, voici un texte que tout bicyclettophile, mot inventé pour l'occasion, doit connaître. « On est bicyclette ou vélo » de Philippe Delerme. C'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve fluo dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversant un pont de Bruges, c'est de la bicyclette. L'écart peut se réduire. Michel Audiard, en niqueur ses chaussettes hautes, s'arrête pour boire un blanc sec au comptoir d'un bistrot, c'est du vélo. Un adolescent en jean descend de sa monture, un bouquin à la main, et prend une menthe à l'eau à une terrasse, c'est de la bicyclette. On est d'un camp ou bien d'un autre. Il y a une frontière. Les lourds routiers ont beau jouer du guidon recourbé, c'est de la bicyclette. Les demi-courses ont beau fournir leur garde-boue, c'est du vélo. Il vaut mieux ne pas feindre et assumer sa race. On porte au fond de soi la perfection noire d'une bicyclette hollandaise, une écharpe flottant sur l'épaule. Ou bien on rêve d'un vélo de course si léger. Le bruissement de la chaîne glisserait comme un vol d'abeilles. À bicyclette, on est un piéton en puissance, flâneur de venelle, dégustateur de journal sur un banc. À vélo, on ne s'arrête pas. Moulé jusqu'au genou dans une combinaison néo-spatiale, on ne pourrait marcher qu'en canard et on ne marche pas. C'est la lenteur et la vitesse, peut-être. Il y a pourtant des moulineurs à bicyclette très efficaces et des petits pépés à vélo bien tranquilles. Alors lourdeur contre légèreté ? Davantage. Rêve d'envol d'un côté, de l'autre familiarité appuyée sur le sol. Et puis, opposition de tout. Les couleurs. Au vélo, l'orange métallisé, le vert pomme granit et pour la bicyclette, le marron terne, le blanc cassé, le rouge mat. Matière et forme aussi. À qui l'ampleur ? La laine, le velours, les jupes écossaises ? À l'autre, l'ajusté dans tous les synthétiques. On est bicyclette ou vélo, c'est presque politique. Mais les vélos doivent renoncer à cette part d'eux-mêmes pour aimer, car on n'est amoureux qu'à bicyclette.
Comme c'est beau !
N'est-ce pas ? Bon, je ne me fais pas d'illusions. Si je vante les mérites de la bicyclette, c'est que je sais que, s'il y a des auditeurs, ce seront inévitablement de ceux qui la pratiquent. Ce qui me facilite la vie pour pouvoir parler d'un deuxième texte. Un qui parle d'anarchie tranquille. Car si j'adore Philippe Delerme et son texte poétique, je pense qu'il a oublié cet aspect si jouissif de la bicyclette. Celui de ne pas être tout à fait comme les autres et de se donner le droit d'agir en conséquence. Et maintenant, un texte de Pierre Sanso, ou Sanso, une anarchie joyeuse. Le vélo prend à contre-pied quelques valeurs contestables de la modernité. À l'emportement d'un certain type de culture, à son stress, il oppose ces machines à retardement que sont les bicyclettes. Elles sont issues de l'industrie, mais elles en tempèrent la frénésie. Je salue l'avènement d'une nouvelle espèce qui rachètera nos métropoles de leurs excès, en jouant de leurs contraintes et donc en les prenant de vitesse. C'est ainsi que les cyclistes empruntent aujourd'hui sans scrupule les trottoirs, se sachant assez habiles pour éviter les piétons. Ils avancent à contresens d'une rue, évitant de justesse un méchant véhicule. Ils ne se satisfont pas de la segmentation des flux et des espaces. À chaque véhicule sa bande, son parcours. Ils préfèrent inventer au coup par coup leurs règles, leurs itinéraires, faire l'indien, comme dirait Gis Debray. En quoi ils me paraissent plus imaginatifs que la plupart des piétons. Il prend appui sur le mouvement de son vélo et l'entraînement de ses muscles. Il a en lui une anarchie joyeuse qui s'exprime par la gouaille de ses jambes et par son propre engagement dans la vie. Un parfait individualiste, même s'il a beaucoup de cœur. Il se conduit comme un gentil garçon, mais il entend qu'on ne le conseille pas outre mesure. L'un n'hésite pas à imprimer sa marque sur la boue d'une piste, par temps clair. L'autre se plaît à voltiger aux confins du ciel. D'un côté la puissance, peut-être une assurance excessive, de l'autre de la délicatesse, peut-être de la timidité en présence des mystères des choses. L'un empoigne, l'autre effleure.
Mais c'est très beau aussi en fin de compte. Hein. Et toi, plutôt vélo ou plutôt bicyclette alors ?
Plutôt bicyclette évidemment.
Ça ne m'étonne pas. On continue tout de suite avec Lisa de Vischer qui nous parle à nouveau d'architecture. Merci Mathieu.
Et donc, le retour de la chronique architecture de Lisa, qui vient nous parler d'un cycle de conférences qui s'était arrêté et qui reprend, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, c'est un cycle de conférences qui s'appelle Across, un cycle qui déjà a eu lieu à la faculté d'architecture de Liège, ici, en 2016. Et en 2015, il y a eu une pause en 2017 et maintenant on la reprend en 2018 avec 8 conférences, 4 conférences à Liège et 4 conférences à Anvers parce que c'est justement ça le principe du cycle. Across, donc across, de l'autre côté de la frontière linguistique, on invite de jeunes bureaux flamands ici à Liège pour parler de leurs pratiques. Et de l'autre côté, donc à Anvers, on invite de jeunes bureaux wallons et bruxellois pour parler de leurs pratiques. Et quand on dit across, c'est pas seulement une question de passer la frontière linguistique, mais c'est aussi across, passer à travers les générations. Parce que ce sont des jeunes bureaux, mais qui, à chaque fois, sont introduits par un architecte local un peu plus connu, qui a déjà un bureau beaucoup plus établi, et qui, justement, va leur poser des questions et va rentrer en dialogue avec eux pour qu'ils puissent expliquer comment eux, maintenant, alors qu'ils sont 20 ans de moins, par exemple, comment ils s'y prennent. Et donc, c'est un cycle qui est très intéressant aussi pour les étudiants parce que ça permet aussi aux étudiants de se projeter dans l'avenir et de voir où est-ce que moi, je serai dans 5 ans, par exemple. Parce que ce sont parfois de très jeunes bureaux qui ont réalisé un projet, deux projets.
Voilà. Et en pratique, alors, ça se passe où, quand, comment ?
Et donc, il y a 4 conférences prévues à Liège, 2 avant l'été et deux après l'été, et 4 conférences à Anvers dans De Singel. À Liège, les conférences auront lieu dans l'espace Opéra, donc l'espace ULG dans la galerie commerciale à l'Opéra. Les dates ne sont pas encore fixées, donc il y a une première conférence qui aura lieu en février et une deuxième en mars. Il y aura plus d'informations plus tard sur la date précise. Et puis je voudrais encore annoncer aussi une autre conférence qui a lieu bientôt, le 6 février, à Beaux-Arts. Une conférence qui marche un peu sur le même principe que le cycle Across, parce que là aussi, il y a un architecte établi français qui s'appelle Gilles Perraudin, qui viendra parler avec un jeune bureau parisien qui travaille la pierre, et ce sera une conférence autour de la pierre. Donc voilà, plusieurs conférences qui vont traverser les générations.
Super. Et on a déjà une idée des invités pour le cycle de conférences Across ?
Oui. Donc il y a plusieurs invités. Il y a d'abord ici à Liège, donc les bureaux flamands qui vont venir. Donc il y a un bureau qui s'appelle Madame Architecture, et donc constitué de 3 filles, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, un bureau qui est constitué seulement de filles. Un autre bureau flamand invité s'appelle Vance van Balle. Donc ça, c'est les deux conférenciers pour avant l'été. Et de l'autre côté, à Anvers, on a invité à Architecture, donc un bureau wallon, et un autre bureau bruxellois qui s'appelle Bernard Dubois.
Super, bah de toute façon on référencera toutes ces infos-là sur la page Facebook de l'émission et sur le site de l'émission, sur le site web d'Urbagora, mais on peut aussi, j'imagine, retrouver toutes les informations en s'abonnant à Plus ou alors en allant sur le site internet de l'université.
Tout à fait.
Super, merci Lisa.
Merci.
L'erreur est tournée. Le dossier.
Le premier dossier de cette année 2018, je disais en introduction, est un peu particulier. Plutôt qu'un thème spécifique, nous allons tenter de survoler dans l'heure qui vient tous les thèmes qui concernent la ville et plus spécifiquement ceux de l'engagement, de la citoyenneté, de la participation. J'ai en effet le grand plaisir de recevoir aujourd'hui ceux qui sont mes patrons, et j'insiste sur les guillemets que je mets à cette expression, à savoir Mathilde Collin et François Schreuer, qui sont tous les deux administrateurs et membres fondateurs de l'association Urbagora. Si je les reçois, ce n'est évidemment pas dans le but de produire une émission qui se regarde elle-même, mais parce que dans cette année 2018 qui débute, c'est une année toute particulière pour cette ASBL liégeoise qui fête ses 10 ans. Avant de céder la parole à mes invités, donc, et de faire un point sur 10 ans de combat et de propositions pour la ville, je souhaiterais, en préambule, citer un expert en combat inégaux en la personne d'Arthur Schopenhauer, qui disait, et je trouve que cette citation s'applique assez bien à notre sujet, « Toute innovation passe par 3 stades. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue, et finalement, elle devient considérée comme ayant été toujours évidente. » Alors je me tourne vers mes invités, téléphérique, tramway, place de la voiture en ville, espace vert, métropolisation, préservation du patrimoine, à ce qu'après 10 ans, les idées d'Urbagora parviennent à montrer qu'elles ont toujours été évidentes.
Alors je ne sais pas si on est parvenu à montrer que nos idées sont toujours évidentes, et d'ailleurs nous-mêmes on est toujours en réflexion par rapport à ce qu'on promeut. La ville change toujours, donc il n'y a rien qui est fixé, mais néanmoins effectivement depuis maintenant 10 ans que l'association a été créée, on voit quelque chose qui ressemble un petit peu à ces 3 étapes, même si la réalité n'est jamais aussi caricaturale que ça. Au tout début, on s'est créé en fait autour d'un combat pour le tram et contre l'autoroute Serexeuse Beaufailly, donc vraiment sur des questions de mobilité. Et voilà, donc c'était vraiment une association uniquement bénévole qui rassemblait déjà pas mal de personnes à l'époque. On était un petit noyau de 10 personnes, mais une centaine de personnes actives d'une manière ou d'une autre. Et progressivement, effectivement, on a essayé de construire ensemble, avec notre expertise de citoyens et d'habitants et d'usagers de la ville, notre vision de ce que serait une ville habitable et durable. Voilà, en l'occurrence sur la ville de Liège, mais donc on entend par la ville l'agglomération et pas la commune de Liège.
François, peut-être un petit mot pour compléter sur Schopenhauer.
Sur Schopenhauer. Ben, effectivement, en tout cas, l'association s'est heurtée pendant les premières années à un mur, ça c'est assez évident. Et aujourd'hui, manifestement, le propos qui est tenu par Urbagora, mais aussi par beaucoup d'autres, parce qu'Urbagora s'inscrit dans un tissu et a peut-être d'ailleurs contribué à faire renaître dans la ville un esprit qui aujourd'hui est beaucoup plus intéressé, beaucoup plus mobilisé sur les questions urbaines que ce n'était le cas quand l'association s'est créée. Ça, c'est assez manifeste. Et donc, je dis que cette mouvance aujourd'hui est écoutée de façon bien plus évidente qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et ça se traduit dans une série de changements, dans une série de dossiers. Quand je vois par exemple les routiers entre Votem et la Citadelle à travers les coteaux de la Citadelle qui a été repoussé, je vois le parking Coquerel qui a été repoussé, je vois le lotissement à Espirou, cet immense lotissement de 500 logements qui prévoyait d'urbaniser une trentaine d'hectares de terres agricoles qui a aussi été retiré, en tout cas pour l'heure. Tout ça, c'est, je pense, ça traduit un changement de cap qui est en cours. Et ce changement de cap, il est, disons-le, il est relativement urgent quand même, parce que Liège a pris beaucoup de retard par rapport à pas mal d'autres villes. Et aujourd'hui, il y a une nécessité qui est d'ordre climatique, d'ordre énergétique, de changer de cap et de produire la ville différemment dans une logique où l'habitant est au centre de la réflexion.
C'est ça, la ville habitée comme leitmotiv, quoi. La ville est avant tout un espace où vivent des gens et il faut s'interroger sur justement ces enjeux-là.
Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Urbagora s'est vraiment créé comme la réunion d'habitants de la ville qui n'en pouvaient plus de subir les multiples pressions que subit la ville et qui sont notamment liées à la périurbanisation, qui sont liées à la pression automobile très forte sur nos espaces de vie et donc sur nos vies tout court. Urbagora, c'est un syndicat d'habitants, si on veut. C'est une tentative de quelques dizaines d'abord et puis quelques centaines de personnes de dire nous voulons que la ville soit réfléchie d'abord et avant tout en fonction de ses habitants et soit pensée comme un espace habité et non pas comme un espace de service ou qui soit à disposition d'utilisateurs extérieurs qui viennent en voiture le matin, qui repartent le soir. Ça, c'est un modèle que nous combattons.
On reviendra un peu sur les enjeux de fond, sur les différents combats, sur les différentes propositions aussi qu'Urbagora a pu porter, sur les différentes positions qui ont pu être prises. Mais d'abord, peut-être faire un petit rapide bilan, regarder dans le rétroviseur. Voilà, Urbagora aujourd'hui a 10 ans. On est fondé donc en 2008 sur cet enjeu de CHB pour le tram et contre l'autoroute CHB. Et depuis, en 10 ans, quelques grandes étapes.
Alors donc, l'association effectivement prend le nom Urbagora en 2008. Le groupe qui allait devenir Urbagora s'est formé dès l'année 2007, dès l'été 2007, dans effectivement le combat contre cette autoroute. Et cette autoroute, c'est pas seulement un enjeu de routier ou de mobilité au sens strict, c'est un enjeu de société. Et c'est d'abord la question qui était posée, c'était la question de dire est-ce que investir 500 000 euros dans une autoroute, tout en prétendant par ailleurs qu'on n'a pas d'argent pour le transport public, c'est quelque chose qui est acceptable. Donc l'association naît à l'été 2007, il y a des manifestations qui sont organisées, des conférences autour de la thématique qui était très simple, ça se formulait oui au tram, non à l'autoroute, on voulait simplement réorienter le budget. Puis alors effectivement, sur cette base, très rapidement, naît une association généraliste sur l'urbanisme qui va en 2008... diversifier ses centres d'intérêt. Un des premiers dossiers sur lesquels on travaille à l'été 2008, c'est le quartier des Guillemins. Le petit groupe qu'est Urbagora, bénévole, peu reconnu, rencontre plusieurs associations du quartier des Guillemins qui font face à la pression très forte de la SNCB et d'autres acteurs qui veulent, grosso modo, dont le rêve est grosso modo de transformer les Guillemins en district en business district de Liège, quelque chose comme ça. On va là aussi appliquer notre leitmotiv qui consiste à dire que la place des habitants est première. Et donc on va notamment réussir à s'opposer à plusieurs dizaines d'expropriations supplémentaires qui étaient prévues pour maintenir les habitants en place. On observe que notamment toute une rue a été expropriée de façon illégitime, c'est-à-dire au nom des nécessités du chantier, et puis les bâtiments ont été démolis après l'inauguration de la guerre, et on va contribuer à faire aboutir le consensus, le compromis que sera le plan de tiers qui prévoit donc cette esplanade, mais sans toutes les démolitions que nécessitait le plan Calatrava. Ensuite, les dossiers vont se multiplier et les modes d'action vont se multiplier aussi. On va faire du tram le fil rouge des 4-5 premières années de l'association, dans une logique notamment de contre-projet. Ça, c'est peut-être un des éléments marquants de ces premières années, c'est qu'on essaye de ne pas être juste dans l'opposition à des projets, mais dans la formulation de propositions, dans l'anticipation, et on formule des idées alternatives à celles qui sont proposées. C'est le cas notamment sur le tram, mais sur beaucoup d'autres dossiers. Un élément qu'on peut noter aussi, c'est le concours d'idées pour la place Cuborne à Serein, où donc il y a un énorme réaménagement en cours à Serein, et l'association va participer anonymement à un concours d'idées pour l'aménagement d'une place publique, dans un contexte où on est déjà intervenu plusieurs fois sur le master plan de Serein, et où la commune ne voit pas nécessairement d'un très bon œil ce qu'on raconte, voire explique qu'on a rien compris, rien à dire. Et puis le jury qui statue sur les projets qui sont anonymes prime notre projet comme lauréat du concours, ce qui est assez amusant parce que on défendait exactement dans ce concours une série d'options qui était défendu par ailleurs, mais avec moins d'audience. Et puis, ça va se multiplier. Enfin, on peut faire un long inventaire de...
Oui, je pense que c'est effectivement important de dire qu'on a aussi réussi à formuler des propositions qui font leur chemin et que voilà, les résultats ne sont pas forcément visibles directement. Mais par exemple, on a fait toute une réflexion sur le réseau express liégeois, qui a eu aussi de l'écho auprès de la SNCB et dont certains éléments se retrouvent maintenant dans le plan d'investissement de la SNCB et donc vont être réalisés avec notamment la réouverture de certains points d'arrêt à Liège. On a formulé l'idée du téléphérique donc qui rejoindrait le quartier Saint-Léonard à la Citadelle. C'est aussi une idée qui a été formulée il y a plusieurs années mais qui fait son chemin. Il y a des études qui sont en cours, il y a des accords de plusieurs acteurs pour essayer de réaliser cette idée-là. Donc on voit que finalement, à côté de effectivement une mobilisation première autour de certains projets qui ont cristallisé des énergies, on est parvenu à transformer ces énergies en quelque chose de plus propositionnel, proactif et peut-être plus positif aussi, de dire bon, c'est pas, il y a pas que des mauvaises choses qui se passent dans cette ville, on parvient à l'imaginer autrement et on souligne aussi certaines choses positives, certaines évolutions positives qui ont lieu. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un marqueur de notre identité, à la fois une lutte contre des évolutions qui ne nous semblent pas aller dans la bonne direction d'un point de vue des enjeux sociétaux, écologiques ou même des égalités sociales, mais en même temps avoir cette capacité de proposition qui est aussi fédératrice et sur laquelle vraiment on parvient à gagner une crédibilité.
Peut-être très rapidement, en une phrase ou en deux, après 10 ans, est-ce que vous pensez que Urbagora a acquis une nouvelle stature et quelle est la place aujourd'hui d'Urbagora dans le paysage liégeois, vraiment rapidement?
Moi, je dirais que Urbagora est devenue une association effectivement qui a sa place dans le réseau associatif, mais qui a aussi obtenu une légitimité auprès des interlocuteurs politiques qu'elle n'avait pas au départ.
On va faire une petite pause et comme je suis, j'aime bien mettre des musiques de circonstance, j'ai décidé d'écouter les Beatles avec Birthday.
terrain reste tourbant. Le dossier.
On est de retour sur les ondes de 48 FM, vous écoutez L'erreur est urbaine. Je suis toujours avec Mathilde Collin et François Schreuer pour parler des 10 ans d'Urbagora. Et dans cette partie, j'aimerais qu'on aborde un peu la question de la vision que vous défendez. Parce que se positionner sur la ville, le slogan d'Urbagora, c'est des idées pour la ville. Mais ça, on l'a évoqué tout à l'heure, on aurait pu dire la ville appartient aussi à ses habitants ou appartient en priorité peut-être à ses habitants. On a tout dit et on n'a rien dit à la fois. Parce que défendre une vision de la ville, ça peut prendre, c'est protéiforme, ça peut prendre vraiment différents arbitrages, différentes prises de position. Est-ce que vous arriveriez, vous, à définir, vous deux, à définir quelle est la vision, quels sont les grands moteurs de la vision d'Urbagora sur les, à la fois sur les thématiques et à la fois sur la manière dont faudrait aborder ces sujets-là?
Je pense qu'un des grands principes sur le fond, c'est de défendre une ville dense qui reste pour autant habitable. C'est partant des enjeux actuels, en fait, la situation actuelle de la construction de l'habitat en région wallonne, pas que, mais notamment, est très dispersé. On construit vraiment, on voit, le long des routes, des maisons, quatre façades, qui gaspillent du territoire au détriment des campagnes, mais aussi des forêts, d'une part, mais qui ont aussi un coût énorme pour la société, puisque d'une part, en termes d'enjeux écologiques, habiter ce type d'habitat, c'est forcément devoir disposer d'une voire deux voitures, puisque il faut aller loin, entre guillemets, pour avoir accès à toute une série de services ou simplement à un emploi. C'est aussi des coûts qui sont redistribués sur l'ensemble des habitants. Par exemple, l'exemple qu'on cite souvent, c'est la facture d'eau. Quand on a des habitations qui sont éloignées de 50 mètres les unes des autres, il faut construire 50 mètres de canalisation. Ça coûte plus cher et ce prix-là, il est payé par l'ensemble des citoyens. Et donc, il y a une question aussi d'enjeu de redistribution sociale et de coûts pour les pouvoirs publics et les personnes privées. Donc, pour nous, un des enjeux fondamentaux est de parvenir à redensifier des noyaux d'habitat, et notamment les noyaux urbains, en les articulant avec une autre mobilité. Donc, particulièrement autour des gares, autour des nœuds de transport en commun. Et donc, ça va ensemble de redensifier l'habitat, de repenser la mobilité, de penser aussi l'aménagement des espaces verts, puisque quand on parle de ville dense, ça peut effrayer. On peut dire, oui, mais on va quand même pas habiter les uns sur les autres. On a déjà peu de respiration comme ça en ville. Et donc, de réfléchir à mais comment est-ce qu'on pourrait faire en étant plus nombreux sur un espace, tout en améliorant la qualité de vie qu'on peut y ressentir, la qualité des déplacements. Et c'est possible. On a des exemples à l'étranger. Donc, voilà, ça fait aussi partie de notre travail. D'aller se renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Et voilà, donc ça c'est vraiment un des moteurs de la vision qu'on défend, tout en disant qu'on essaie d'avoir la démarche la plus participative possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision fixe, on émet des propositions qui sont toujours soumises à débat, et on pense que c'est vraiment les habitants, c'est un gros enjeu que les habitants puissent se saisir de ces questions-là, donc il faut pouvoir vulgariser des choses qui sont finalement très complexes, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, c'est pas des choses auxquelles tout un quidam va s'intéresser et faire des lectures le soir sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment un enjeu de pouvoir donner aux habitants la capacité de se saisir de l'avenir de leur environnement, de leur habitat simplement.
Sur cette question-là, l'Urbagora a une structure, une association qui est au service de ses membres, en fin de compte, qui est au service de ses militants et qui peuvent l'investir de la manière dont eux envisagent la chose. Quelle place pour le pluralisme dans la vision défendue par Urbagora?
Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Urbagora, effectivement, souhaite rester une association pluraliste, même si certains sont engagés de façon politique. Et donc, il est très important que les différentes sensibilités du champ démocratique puissent se sentir les bienvenues dans Urbagora. Ceci dit, voilà, Urbagora a un objet social qui est la défense de la ville habitée, disons, pour faire très bref. Et ça, c'est le point commun sur lequel tout le monde se retrouve. Je dirais qu'on n'est pas nécessairement uniquement au service de nos membres. On est au service d'une vision de la société qui est aussi une vision de long terme, parce qu'on sait que le modèle de l'étalement urbain n'est pas soutenable. Tout ce qu'on souhaite, c'est un rééquilibrage qui permet notamment de protéger la fonction agricole, qui a une fonction essentielle dans une société qui aujourd'hui est quand même en assez grande difficulté, notamment parce que le foncier devient de plus en plus cher, parce que l'urbanisation grignote le territoire de façon tout à fait effrayante au cours des années. Là encore, aujourd'hui, on est face à des centaines d'hectares de projets d'urbanisation sur des terres agricoles autour de Liège. À l'échelle historique, c'est complètement sidérant. En un siècle, en un demi-siècle ici, on aura gaspillé des dizaines de milliers d'hectares rien qu'en région liégeoise, alors qu'on aurait pu imaginer un mode de développement beaucoup plus dense. Mais donc, voilà, il y a par rapport à ça simplement un enjeu de soutenabilité à long terme, notamment dans une ère post-pétrole, où on sait bien qu'on ne saura pas organiser les déplacements en voiture sur des territoires immenses, dédensifiés, dépourvus de transports en commun, parce qu'il est tout simplement impossible d'organiser les transports en commun dans un territoire qui est peu structuré. Et voilà.
Et sur la question participative, peut-être, sur la question du rôle des membres, si quelqu'un contacte demain Urbagora en disant « Écoutez, moi j'ai une vision à défendre, c'est, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait planter 433 arbres et j'ai localisé exactement le lieu faire », quelle est la place du citoyen justement dans les processus de...
Alors, Urbagora fonctionne de façon assez classique avec une assemblée générale, un conseil d'administration et des groupes de travail. Les groupes de travail qui sont le cœur de la production d'Urbagora, en tout cas qui l'ont été à beaucoup de périodes de son histoire, fonctionnent ou ne fonctionnent pas en fonction des énergies que les membres souhaitent y mettre. Et donc si une personne arrive avec des idées qui semblent intéressantes à d'autres et qui peuvent se réunir ensemble et produire une note, proposer une action, etc., ben ça, effectivement, ça se fera. Ça, c'est la dynamique de toute association. Mais pour peut-être revenir sur un plan plus large, celui de la place des citoyens, la référence théorique principale d'Urbagora sur ces questions, c'est la notion de droit à la ville de Lefebvre, qui est donc une idée extrêmement simple qui consiste à dire que la ville doit être gérée et produite par ses habitants. Et que le cœur, que la souveraineté politique appartient aux gens qui vivent dans la ville. C'est tout simplement ça, cette idée. Et donc, voilà, on essaye de mettre en pratique cette idée et de promouvoir dans la forme des décisions cette idée. Mais on en est encore loin. Et par exemple, une des étapes préalables à cette idée d'un exercice réel du droit à la ville, c'est par exemple le droit à l'information. Il est essentiel que chacun puisse accéder à l'information pertinente pour se former un avis, pour analyser un dossier, etc. Et on voit que rien que cette question-là, elle est déjà extrêmement difficile et extrêmement sensible. Très concrètement, par exemple, dans un dossier d'urbanisme, on est dans un dialogue extrêmement dissymétrique entre des pouvoirs publics et des bureaux d'études qui travaillent sur les dossiers parfois depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et puis des citoyens non armés, non équipés, qui n'ont pas fait spécialement d'études dans ce domaine, qui doivent décortiquer des dossiers extrêmement techniques, parfois en seulement 15 jours, sans avoir accès aux fichiers numériques et donc en devant les consulter sans pouvoir faire de copies au service de l'urbanisme. Ça, c'est quelque chose qui est radicalement intolérable, et donc il est absolument indispensable pour pouvoir envisager un débat démocratique serein sur les questions urbaines, de d'abord fournir l'information de façon structurelle, régulière, accessible, via les nouvelles technologies, via tous les moyens possibles, aux citoyens. Il est indispensable de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour analyser les dossiers, pour se faire une idée, etc. Et c'est un constat, une revendication qui est vraiment systématique dans tous les combats qu'on a observés, auxquels on a participé. Je pense à la place Coquerel, je pense au Riponnet, etc. On a besoin, les citoyens ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir comprendre les dossiers, ils ont besoin de disposer des dossiers, de pouvoir les lire chez eux. C'est extrêmement basique, mais on est sur ce genre de questions-là. Et donc on essaye de mettre la pression, et ça donne des résultats. Hein. Il y a encore 3 ans, la position de la ville consistait à dire qu'il était hors de question de fournir aucun dossier parce qu'ils étaient protégés par le droit d'auteur. Aujourd'hui, sur les grands dossiers d'urbanisme, les fichiers ont été mis en ligne sur le site de la ville de Liège. Ce qui dénote d'une évolution. Maintenant, il faut que ça se systématise, que ça ne soit plus qu'il ne faille plus un rapport de force à chaque fois pour l'obtenir, mais c'est des choses qui avancent.
C'est une question qui me vient en parlant de ça, qui est la... La question de la matière. Urbagora traite d'une matière qui est extrêmement complexe, on l'a dit, c'est une matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, etc. Ce sont des disciplines qui requièrent des connaissances techniques, des connaissances même limites en technologie, des connaissances en matière de droit, des connaissances en matière de politique aussi, etc. C'est extrêmement complexe pour un citoyen qui se retrouve confronté à un moment donné à un enjeu urbain quelconque qui le concerne plus ou moins directement ou qui l'intéresse, commencer d'abord par appréhender ces matières, arriver à apprécier cette matière-là dans la complexité, dans la variété des formes, alors qu'il va se retrouver confronté à des bureaux qui, eux, ont des moyens financiers déjà pour avoir des personnes qui y consacrent du temps, mais qui aussi ont une expertise, qu'elle soit technique, qu'elle soit juridique, etc. Comment une association comme Urbagora s'outille pour arriver à dialoguer simplement avec les pouvoirs publics et avec les cabinets?
Alors, on n'a pas une manière unique de procéder. Je pense qu'on doit agir sur une multitude de facteurs. Dans la durée, on a acquis une certaine crédibilité qui fait qu'on peut parfois, nous, avoir accès à des dossiers. Mais je pense que de manière plus large, l'enjeu, c'est de dire c'est pas pour nous, c'est pas à nous qu'il faut donner les informations. Elles doivent être disponibles pour tout citoyen qui a envie de pouvoir s'y intéresser. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut poser la question. Et là, un des enjeux sur lesquels on essaie d'agir, c'est la qualité et la manière dont se donnent les séances d'information dans les quartiers. Quand il y a des grands projets, régulièrement, des séances d'information sont quand même organisées par la ville ou par la province en fonction du projet. Et lors de ces séances d'information, on retrouve cette dissymétrie dont François vient de parler, entre des personnes qui connaissent, qui savent de quoi elles parlent et qui maîtrisent les informations qu'elles donnent et qu'elles ne donnent pas, et des citoyens qui essayent de comprendre quelque chose et qui seraient censés parler d'une voix unique alors qu'il y a peut-être 50 personnes dans la salle qui ne se connaissent pas et qui forcément amènent une diversité de points de vue, de préoccupations, d'intérêts, de questions. Et là, on a vraiment un enjeu qui est dans la volonté même du pouvoir politique de dire « Ok, je m'ouvre réellement à ce que les citoyens peuvent apporter ». Et là, ça se construit dans la durée. Je pense que là, on n'a pas tellement le choix. Mais les documents à disposition, la qualité des séances d'information qui doivent être animées par des personnes indépendantes et non pas par les auteurs de projets en tant que tels ou les commanditaires d'une étude, qui puissent organiser une vraie discussion contradictoire autour de ces projets, le fait aussi d'arriver avec une solution qui serait à prendre ou à laisser est problématique. Donc là, nous, ce qu'on essaie de faire systématiquement, c'est de créer une contre-proposition, un contre-projet, qui n'est pas forcément la solution qu'on a envie de défendre à tout prix, en tous les points, mais qui a pour rôle de montrer qu'il y a une autre, au moins une autre manière de faire. Et du coup, ça ouvre les esprits, ça ouvre les imaginaires. Et face à un projet qui serait amené à prendre ou à laisser, les gens peuvent plus facilement se dire « Ah ouais, mais en fait, il y aurait moyen de faire complètement autre chose. » Et dans la proposition alternative, il y a cet élément-là qui est important, et dans la proposition originale, il y a quand même ça qui est important. Et sur base de ça, on peut ouvrir la discussion et créer. Donc ça, c'est vraiment pour nous un rôle fondamental de la contre-proposition, c'est de pouvoir amener un débat.
Oui. Moi, j'aimerais dire quand même que c'est effectivement complexe, mais moi, je suis impressionné par la manière dont des collectifs d'habitants qui partent plus ou moins de rien et qui n'ont pas nécessairement un passif dans le domaine, parviennent parfois en quelques semaines à monter des argumentaires extrêmement fournis. Alors, c'est clair que tout le monde n'est pas équipé de la même manière, mais dans les collectifs d'habitants se trouvent de plus en plus souvent des gens qui ont des ressources qui ne sont pas nécessairement directement liées à l'urbanisme, mais qui parviennent à lire des dossiers très importants, à en tirer les éléments politiques, à repolitiser les questions, parce que souvent la technicisation des dossiers, elle sert à ça, elle sert à étouffer les choix de nature collective sous un amoncellement de normes, d'impositions, voilà. Et je prends un exemple très simple. Par exemple, le tram est sans doute le dossier le plus complexe qu'on a eu à traiter. On y a passé des milliers d'heures. On a lu les documents, on a essayé de comprendre tout ça. Mais in fine, on a formulé les choses. Et je pense que ça a été un des apports d'Urbagora dans ce dossier, même si on a perdu sur toute la ligne le combat du tram, en tout cas dans sa forme. On est parvenu, par exemple, à formuler des questions très simples. Est-ce que le tram doit aller très vite au centre-ville en s'arrêtant peu pour permettre aux gens qui se garent dans les parkings de dissuasion d'accéder au commerce, ou est-ce que le tram est un outil qui relie les quartiers entre eux et qui doit rentrer à l'intérieur des quartiers, desservir les écoles, les pôles d'habitat, les pôles d'emploi, Et cette option-là, elle était visible. Par exemple, dans le cas du quartier Saint-Léonard, on avait une option qui était aller sur le quai très vite et donc dégrader fortement la desserte intérieure du quartier, ou une option qui était de rentrer dans le quartier et de faire des arrêts qui allaient desservir les habitants. Ces options-là, elles sont extrêmement compréhensibles par l'immense majorité des citoyens.
On va revenir un peu sur les enjeux. Là, on a un peu vu les questions de fond. On va regarder un peu les questions de forme. Comment Urbagora, ces 10 dernières années, a réussi à prendre sa place, quelles interventions, quel mode d'intervention. Mais avant ça, je propose une petite pause musicale et d'écouter Myriam Makeba avec Malaika.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, roho yangu
no!
L'erreur reste humaine. Nous aussi.
Vous êtes de retour sur les ondes de 48FM, on écoute toujours l'erreur est urbaine, et pour cette deuxième partie de notre dossier consacré aux 10 ans d'Urbagora, je voulais interroger un peu les différentes formes qu'ont pu prendre les interventions d'Urbagora. Mais avant ça, François, tu avais un dernier mot à dire sur les enjeux d'espace public.
Donc dans les questions de fond qui animent l'association, il y a effectivement l'enjeu de rééquilibrage du territoire et les enjeux démocratiques, mais il y a un troisième élément qui me semble vraiment important à dire, c'est qu'on parle de la ville de façon un peu abstraite. Et la ville, ça recouvre beaucoup d'expériences, mais je pense que une référence aussi qu'on peut citer, c'est David Mangin qui parle de la ville passante et qui explique, après beaucoup d'autres, que la ville en fait se définit comme un endroit où on marche. La ville, c'est l'endroit où le mode de déplacement principal et naturel est la marche. Et je pense que la conséquence de ça, c'est une attention soutenue et extrêmement centrale pour la question de l'espace public. Faire la ville, faire une ville vivante, agréable, qui crée de la socialité, où les gens se sentent bien, c'est faire une ville où on peut marcher sans être mis en danger, où on peut marcher pour se déplacer d'un point à un autre facilement. Et on voit qu'à Liège, on a un grand travail à faire sur ce sujet de l'espace public, sur le fait de penser l'espace public d'abord en partant des usages doux, la marche et le vélo, et puis le transport en commun, et puis seulement la voiture, et non l'inverse, alors qu'aujourd'hui, on voit que la ville, est dans sa conformation actuelle, est le produit d'un demi-siècle de politiques pro-bagnoles qui ont réservé l'immense majorité de la surface de l'espace public urbain au stationnement ou au déplacement des voitures. Et évidemment, ça a produit des comportements en conséquence. C'est-à-dire, on ne se comporte jamais de façon... nous ne sommes pas de purs esprits. Nous utilisons les outils qui sont à notre disposition, et quand il y a une grande voie rapide devant nous qu'il est quasiment impossible de traverser, mais qu'il est très facile de rouler dessus en voiture, et ben nous devenons des automobilistes. Mais il n'y a pas de fatalité à ça. Et cette grande voie rapide, on peut imaginer d'en faire autre chose. On peut imaginer d'en faire une avenue sur laquelle on va avoir un site propre de transport en commun, avoir un peu de circulation pour les voitures, et puis peut-être des grands espaces aussi qui vont être dégagés, qui permettront de faire plein de choses dans cet espace public, de réserver des espaces de jeu pour les enfants, d'avoir de grands espaces qui permettent d'être appropriés par toutes sortes d'usages. Et c'est ce qui se passe dans plein de villes, en fait. Vous allez aujourd'hui à Hambourg. Hambourg, c'est une ville avec des rues très larges. Parfois, sur une rue de 20 mètres de large, il n'y a que une bande de circulation, et tout le reste est consacré à un beer garden ici, à un espace de récupération des déchets là-bas, à un espace de travail collaboratif un peu plus loin, et ainsi de suite.
Et quand on voit effectivement la ville de Liège telle qu'elle est, enfin l'agglomération liégeoise aujourd'hui, et qu'on va se promener dans un certain nombre d'autres villes en Europe, on constate effectivement le retard qu'il peut y avoir dans la cité ardente sur ces questions-là. Et ce qui amène du coup assez naturellement à la question d'après, qui est, on a un fond, on a des idées, on a des projets, on a une vision critique et documentée sur des enjeux. Comment on arrive à faire en sorte que ces idées soient écoutées et entendues surtout ? Alors c'est donc la question des modes d'intervention. Comment Urbagora intervient concrètement pour faire en sorte de faire avancer ces idées ?
D'abord, je pense que la première action en tant que telle, c'est la production d'idées. C'est pas un petit travail, c'est vraiment une question de crédibilité, de pouvoir dire non seulement on ne se plaît pas dans la ville telle qu'elle est, on refuse certaines évolutions, mais il faut être capable de faire ce contre-projet. Et c'est déjà beaucoup d'énergie en tant que telle. Et la production d'Urbagora, elle est très importante. Elle pourrait certainement être améliorée. Elle est toujours à redébattre. Et évidemment, il faut pouvoir la diffuser. Donc à partir de ce moment-là, on a mis en place un certain nombre de canaux de diffusion sur ces idées, mais aussi on propose des espaces de discussion pour des idées qui ne sont pas produites par nous, qui peuvent être investies par d'autres. Cette émission radio en est un exemple. Il y a régulièrement des débats où on invite des personnes à formuler leur point de vue sur des questions qui ne sont pas forcément le point de vue d'Urbagora. On a lancé la revue Dérivation, dont Urbagora est éditeur, et qui est un espace aussi de parole, d'expression en tout cas, parce qu'il n'y a pas que de l'écrit, il y a aussi du dessin, des photos, il y a plusieurs formes d'écrit, la littérature ou des textes plus scientifiques, plus ou moins longs et courts. Donc on a ces espaces qui sont des espaces de discussion qui peuvent être saisis et utilisés par une série d'acteurs qui ont des choses à dire sur la ville et qui ne sont jamais dites dans les médias plus traditionnels. Donc ça, c'est un mode d'action. Il y a évidemment nos propres idées à nous sont diffusées aussi dans ces supports-là un petit peu, mais on les met en débat. Par exemple, on a organisé toute une série de cafés urbains mensuels pendant plusieurs années, où là, c'était on a identifié un enjeu, on a sans doute produit nous-mêmes une réflexion là-dessus, et on invite d'autres personnes ressources qui sont là, et on invite les gens à venir dire ce qu'elles pensent de cette thématique-là. Ce qui nous permet à la fois d'améliorer notre position de départ, de l'enrichir, de la modifier et de la diffuser. Et voilà, donc c'est une espèce d'auto-formation collective qu'on fait avec les citoyens, où chacun peut s'approprier les questions et en retirer ce qu'il a envie d'en retirer. Donc voilà, il y a vraiment ces canaux-là de diffusion. Il y a un autre axe qui est vraiment la construction d'un rapport de force, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées et de les diffuser pour que, comme par magie... Elle soit appliquée et mise en place.
On en revient un peu à Schopenhauer là-dessus.
Et donc là, on a un travail effectivement de réseautage qui vise à se créer, à devenir nombreux, à montrer qu'on est fort et à essayer de faire passer nos idées auprès des responsables politiques. Ça se passe par des contacts directs, effectivement, avec les élus, mais aussi par des partenariats avec d'autres associations qui sont sur des thématiques proches ou qui se recoupent, puisque quand on parle de la ville, on parle de beaucoup de choses. Donc, en fait, beaucoup d'associations qui ont un autre objet social ont une intersection, j'ai envie de dire, dans leur objet social avec le nôtre. Et donc là, on essaye de mettre en place des partenariats sur une série soit de projets, soit de thématiques de réflexion.
Oui, je pense que... Bon, d'abord, Rubagoret est un objet extrêmement hybride qui a multiplié les formes d'intervention au cours du temps, depuis effectivement la publication de textes, mais aussi des interventions dans l'espace public, mais aussi la participation à un concours, mais aussi... les formes sont multiples et elles changent, elles évoluent au cours du temps. Moi, ce qui me semble important à dire, c'est que Urbagora est peut-être né comme un grand cri d'amour et de révolte d'habitants de la ville qui en avaient marre de la façon dont les choses se passaient. Mais Urbagora, en grandissant et en mûrissant, de plus en plus donne la parole à d'autres et essaye d'outiller d'autres personnes. Et donc ça, c'est, je dirais, le rôle d'éducation permanente qui est devenu le nôtre petit à petit. Nous nous sommes d'abord auto-formés à une série de choses et puis nous essayons de mettre des réflexions, des outils, des analyses, des éléments qui permettent aux personnes qui ont envie de travailler avec nous de se former eux-mêmes une opinion, de se forger eux-mêmes un avis sur les choses. Et donc, je dirais, notre objectif est de moins en moins de faire passer des idées directement, même si nous continuons à défendre une vision de la ville, mais de plus en plus à essayer de nous mettre au service d'autres personnes, d'autres collectifs qui veulent intervenir sur ces questions. Et donc, ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Et Urbagora essaye d'être un lieu large et ouvert dans lequel des sensibilités différentes peuvent cohabiter. Urbagora n'est pas une organisation politique qui défend un programme. Urbagora est une structure qui fait vivre un débat sur la question de la ville à Liège avec tous ceux qui sont intéressés d'y participer, dans une optique de base qui est donc celle de la défense de la ville habitée, comme on l'a dit.
Oui, il y a encore d'autres types d'interventions qui ont pu avoir lieu ces dernières années que vous n'avez pas citées. C'est les interventions dans l'espace public, c'est-à-dire, je pense au Samariscabel, dont Laurent était venu parler un petit peu, enfin avait parlé un petit peu il y a quelques mois. On peut penser aussi à l'organisation des fêtes de la musique, à l'organisation de conférences. On peut penser aussi aux différentes actions qui ont pu être menées sur le Ravel il y a quelques années.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est des actions qui sont relativement chronophages à organiser, donc qui ne se font pas très régulièrement. Mais chaque fois, le résultat est intéressant. Et donc, les interventions dans l'espace public que ce soit le fait d'investir une place à l'occasion des fêtes de la musique, ce qui est en même temps un moment festif, enfin tu le sais bien puisque tu étais le gentil organisateur de tout cela, Baptiste, mais donc le fait d'à la fois créer un moment festif mais aussi de montrer par l'exemple qu'un espace public peut vivre différemment, parce que c'était aussi ça l'enjeu, c'est hyper intéressant et ça donne des résultats peut-être même bien plus féconds que le fait de publier de nombreux textes. Et donc c'est quelque chose qu'effectivement on souhaite faire plus régulièrement, et c'est une des façons d'ailleurs dont les gens qui s'intéressent à Urbagora peuvent y participer. C'est en proposant et en participant à ce genre d'intervention qui, à mon avis, ont vocation à se reproduire.
Et on vous en prépare une belle pour la suite, mais on en parlera après la pause musicale. On va écouter They Say I'm Different de Bette Davis. She spit it, snuffing boogie, damn on drag. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and maybe getting off humping the jolly hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins.
erreur reste tourbeur. Le dossier.
Et nous sommes le samedi 13 janvier, on écoute toujours L'Erreur est urbaine et je suis toujours en compagnie de Mathilde Collin et François Schreuer pour parler des 10 ans d'Urbagora. Et puisqu'on est dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a un programme d'anniversaire ?
Oui, donc effectivement, on va marquer le coup un peu de cette dixième année d'activité de différentes manières, avec un festival, avec un déménagement, avec une expo et un bouquin, avec différentes activités qui vont émailler l'année. Donc le pinacle de cette année pour nous, mais pour beaucoup d'autres aussi, parce que c'est un projet qui est porté en collaboration avec maintenant une trentaine de partenaires, ça va être le festival Avril en Ville, qui se tiendra du 20 au 29 avril, comme son nom l'indique, à Liège, avec un point de chute principal au cinéma Souvenir, mais d'autres lieux où des choses se passeront. Et ce festival, il visera à la fois à donner de la place à des interventions artistiques en lien avec la ville, mais aussi à être un lieu de débat, de réflexion, d'échange sur toute une série de questions. Et donc il y aura des conférences, il y aura des moments de débat, il y aura beaucoup de choses.
Donc le festival, on peut en parler, on fera une émission spéciale dessus pendant le festival, 48FM est notamment partenaire, on en parlera un peu plus longuement aussi juste avant. Sans rentrer dans une programmation détaillée, on peut peut-être expliquer un peu ce qu'est l'enjeu de ce festival.
Alors l'enjeu du festival, donc c'est un festival qui est initié par Urbagora mais qui ne sera pas organisé par Urbagora seul. Il y a beaucoup de partenaires qui ont accepté de jouer le jeu, de s'engager dans ce projet, et donc l'enjeu du festival à mon avis c'est d'abord d'élargir très largement la réflexion sur la ville, d'ouvrir à des publics qui aujourd'hui sont peut-être peu touchés par ces questions, la possibilité de s'intéresser, la possibilité d'intervenir, la possibilité de formuler leur vision des choses, et de croiser les multiples sensibilités, les multiples intervenants qui s'expriment sur ces sujets. Et donc parmi les partenaires, il y a beaucoup de monde. Le premier partenaire, c'est les Grignoux qui va accueillir dans le cinéma Souvenir le lieu. Mais il y a aussi, par exemple, PAC, il y a la Maison des Sciences de l'Homme, il y a le GRAC, il y a des dizaines d'associations liégeoises qui vont intervenir, chacune avec leur sensibilité, chacune avec leurs préoccupations. Et ce qui sera intéressant, je pense, dans le festival, c'est la rencontre de tous ces gens qui, d'ailleurs, vont travailler ensemble sur plusieurs des événements du festival, puisqu'on a la chance de voir naître une dynamique de collaboration sur toute une série d'événements qui auront lieu pendant le festival et qui seront portés ensemble par plusieurs partenaires. Voilà, je dirais l'enjeu du festival pour Urbagora, c'est de toucher de nouveaux publics avec le débat sur la ville, de faire en sorte que des milliers de personnes puissent devenir actrices de l'évolution de la ville et pas uniquement spectateurs plus ou moins heureux ou plus ou moins désabusés selon les cas.
Dans ce cadre de festival, on en parlait tout à l'heure avec Pavel, il y a le concours d'idées sur la place Tivoli. Nous organisons une journée d'information, enfin 2 heures d'information pour les enseignants sur ce concours-là. C'est le mercredi prochain à 13h.
Le 17, oui.
Le mercredi 17, oui, c'est ça. À 13h dans les locaux d'Urbagora. Vous y êtes tout à fait bienvenus si vous êtes enseignant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette année de prévu ?
Donc, outre le festival qui va encore contenir plein de bonnes choses, mais on en parlera une autre fois, on a dans l'agenda aujourd'hui le 3 mars une après-midi de réflexion sur la question où faut-il construire du logement à Liège. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui qu'il y a une demande de logement qui est prévue, qui est assez forte, et dans le même temps on observe une difficulté à voir des projets émerger qui puissent fédérer, qui puissent rassembler un consensus autour d'eux. Et donc on invite 3 acteurs, les pouvoirs publics, les promoteurs et les collectifs d'habitants, à débattre de cette question. Où faut-il construire du logement à Liège ? Je pense que ça sera assez intéressant. On prévoit aussi pour le mois de mai un débat sur la participation autour du livre Participé de Pavel Kunisch, qui vient de paraître, que nous venons de publier, un livre numérique que nous venons de publier en décembre. Et donc nous allons demander à une série de commentateurs avisés de lire ce livre et de venir en discuter. Ça, ce sera pour le mois de mai. On sait encore que fin d'année, je parle des événements principaux, il y aura beaucoup d'autres choses, mais fin d'année nous aurons une deuxième édition des Rencontres des luttes urbaines. Une première édition avait eu lieu en 2015 à Liège, et donc une deuxième édition va avoir lieu à Bruxelles en novembre, en collaboration avec Inter-Environnement Bruxelles. Et voilà. Et donc ce sera plus international que la première fois, puisque nous allons essayer de réunir des collectifs venant de toute l'Europe à Bruxelles dans ce cadre-là. Et puis alors peut-être une dernière chose à signaler, c'est que l'association est à l'origine de la création d'une coopérative qui s'appelle Les Biens Communaux, qui a acheté dernièrement un bâtiment dans le quartier Saint-Léonard, dans lequel nous allons déménager d'ici une année, un peu plus d'une année sans doute. Et ce bâtiment se veut une ruche créative et associative. Donc c'est un bâtiment qui est assez grand et qui va réunir toute une série d'acteurs qui sont intéressés de s'y installer. Et voilà, donc c'est...
Et ma transition est toute trouvée, parce que je voulais parler donc de cette année d'anniversaire, mais aussi des 10 ans qui viennent, puisque maintenant on a 10 ans, on peut se projeter sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Urbagora pour les 10 ans? Quel est l'état de la réflexion? Quel est du statut que prend Urbagora aujourd'hui à Liège?
D'abord, je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à Urbagora dans les 10 ans, c'est d'avoir autant de surprises qu'elle en a eu dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Mais on a quand même quelques axes qu'on souhaite, nous, développer, et qui impliquent notamment de pouvoir bénéficier de plus de soutien et de plus de financement qu'actuellement, puisqu'on est quand même une petite association avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà, c'est un petit peu aussi conditionné. Les axes de développement vont être conditionnés à notre capacité à pouvoir accroître les subventions de l'association. Mais il est clair que on souhaite pouvoir aller dans cette direction de faire en sorte que de plus en plus d'acteurs puissent se saisir de ces questions sur la ville, puissent commencer à y réfléchir et à s'approprier l'avenir de la ville. Donc ça, c'est effectivement un tournant qu'on a déjà amorcé et qu'on souhaite accentuer. Peut-être parvenir, si on en a les moyens, à mettre en place une série de formations justement dans cette optique-là, de pouvoir partager des savoirs, de pouvoir en acquérir de nouveau nous-mêmes aussi d'ailleurs. Et peut-être qu'il serait intéressant, on y pense aussi, de sortir de Liège. Donc on a beaucoup jusqu'à présent travaillé sur l'agglomération liégeoise, mais il se fait que avec la sixième réforme de l'État, la compétence de la politique des grandes villes a été transférée aux régions. Que dans ce cadre-là, il nous semble intéressant de pouvoir collaborer avec d'autres acteurs dans d'autres villes wallonnes, et voilà, de sortir de Liège, ce qu'on a déjà commencé à faire avec la diffusion de dérivations, avec l'organisation de certains événements en partenariat avec l'un ou autre acteur à différents endroits, notamment à Charleroi et à Bruxelles. Voilà, je pense que l'avenir de l'association, elle sera aussi faite par les projets que vont y amener les personnes qui veulent s'y engager. Et donc là-dessus, il faut parvenir à rester ouvert tout en donnant certaines grandes orientations.
Et les grands défis auxquels est confrontée l'association aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelques défis, des challenges à relever qui semblent, parce qu'on achète un bien, on co-achète un bien pour envisager d'y emménager, de s'y développer, je suppose, l'idée de sortir, etc. C'est des challenges. Quels sont les... Est-ce que vous avez identifié quelques défis auxquels il faut apporter une réponse?
En termes de fonds, de dossiers, ou en termes organisationnels?
En termes organisationnels, en termes de... Voilà, on est confronté dans une réalité aujourd'hui du secteur associatif qui n'est pas facile. On est quand même à un pouvoir politique qui est plutôt hostile au mouvement associatif, en tout cas au niveau fédéral. Comment Urbagora envisage le futur de ce point de vue-là et...
Oui, le niveau fédéral, on n'a pas d'interaction avec lui quasiment, mais... C'est clair qu'Urbagora a fait le choix et le pari de la professionnalisation. Donc on a obtenu la reconnaissance comme association d'éducation permanente, qui nous a permis de construire une bonne partie des choses qui ont été faites ces dernières années. Mais aujourd'hui, Urbagora, c'est deux équivalents temps plein, donc quatre mi-temps, et c'est pas suffisant pour faire vivre dans la durée une association de façon professionnelle. Et donc, sans aucun doute, nous visons une augmentation des ressources auxquels nous pouvons prétendre à travers différents dossiers, et l'objectif, c'est d'atteindre 5, 6, 7 équivalents temps plein qui constitueraient un socle suffisant pour pérenniser l'association, qui aujourd'hui reste extrêmement fragile et d'ailleurs extrêmement dépendante des énergies bénévoles qui la font vivre au quotidien aux côtés des salariés. Et donc voilà, je pense que on arrive peut-être à un moment où ça devient envisageable, où sur différents registres, on peut commencer à faire valoir un niveau d'activité et et des rapports sur tout ce qui a été fait ces dernières années qui justifient que Urbagora reçoive par exemple de l'argent de la région Wallonne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà.
Très bien, un petit mot de la fin peut-être ? Quelque chose à ajouter ? Ah ben non, mais dans ce cas-là, c'est très bien. Je nous souhaite un très bon anniversaire. On va écouter Nantes de Beyrouth. Je vous remercie à tous les deux d'être venus.
Merci à toi.
Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
pour la rubrique Dis-moi ta ville, je suis allé à la rencontre de Fabienne Laurent et de Serge Delescaille qui habitent un charmant appartement sur les hauteurs de Liège à Raucourt. Leur ayant ouvert mon micro pour une discussion libre sur l'habitat en ville, nous nous sommes retrouvés à parler longuement de Liège, de ses avantages, de ses petits défauts aussi. Ces deux quinquagénaires originaires de la région de Charleroi vivent en effet dans notre ville, l'une depuis plus de 30 ans, l'autre depuis une toute petite année. Je vous propose de les écouter ensemble en allant tout doucement vers midi.
L'erreur est tombée. Je suis journaliste de formation. Je suis arrivé à Liège en 1977 pour faire mes études. Je suis originaire d'un petit village entre Charleroi et Namur. J'ai fait mes études au pensionnat. Donc je ne suis guère sorti de mes murs jusqu'à l'âge de 18 ans, où je suis arrivé à Liège pour commencer une licence, on appelait ça une licence à l'époque, en germanique, en 1977. Donc ça remonte, ça date. Et là, ça a été une découverte, quoi. Une découverte. La découverte d'une grande ville qui offrait toutes les possibilités de ne pas étudier, disons-le comme ça. tout sur place, quoi. J'étais complètement ébloui. Je me croyais dans un Luna Park géant avec des cinémas à portée de main, la possibilité de faire des courses très très rapidement, de circuler à pied, des réseaux de bus foisonnants, ce que je ne connaissais pas du tout, quoi. J'ai immigré il y a 4 ans dans la périphérie, à Recours, où il fait plus vert, il fait plus calme. Enfin, quoique, on mélange ici des zones industrielles, des zones résidentielles et des zones commerciales. Il y a le Cora, il y a le Macro. On n'est pas loin d'une autoroute non plus. Mais c'est vrai que cet endroit où je vis est toujours à Liège et est relativement calme. Il y a également quelque chose de très précieux qui est le Ravel qui est ici à côté, qui permet de circuler à pied ou en vélo en sécurité. Et c'était quelque chose qui a compté dans la décision d'acheter un logement plus à l'extérieur de la ville. Mais je suis resté 30 ans à Liège, 30 ans à quelques pas de la place Saint-Lambert. On était vite dans le centre, j'habitais dans la rue de Campine, une perpendiculaire plutôt à la rue de Campine, et c'est vrai que on est là tout le temps baigné dans les activités du centre, et on en est à proximité, même si on est un peu à l'écart, qu'on a son jardin, il y a moins de voitures, mais on a un accès très très rapide à tout. Le plaisir, c'est de vivre dans une ville comme Liège. Ça, c'est important. On dirait que je suis devenue principautaire, même si je ne suis pas liégeoise d'origine. Liège est une grande ville d'abord. C'est aussi une énorme agglomération. Ça fait, je crois, 600 000 habitants, hein, si on prend Liège et ses pourtours. Et c'est quelque chose qui est unique en Wallonie. On peut dire ça à des Carolos, on peut dire ça à des Lurois. Ils nous prennent systématiquement pour des principautaires prétentieux et orgueilleux. Non, on est quelque part dans un espace urbain qui est quand même à taille humaine, mais qui offre la possibilité, du fait du nombre d'habitants, de développer des activités culturelles qu'on n'aura pas ailleurs, de développer des activités de service qu'on ne va pas trouver forcément dans une ville de plus petite dimension. Donc pour moi, la ville, c'est ça, c'est cet accès immédiat à tout un panel d'activités différentes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sanitaire aussi, il y a des hôpitaux qui sont là, enfin il y a vraiment tout ce foisonnement et tout ce panel d'activités qui fait que c'est quelque chose d'unique. Être en ville, c'est ça. Voilà.
Moi, j'ai vécu la catastrophe Carolo, c'est-à-dire une ville où il ne se passe plus rien, où on détruit tout. Donc quand je suis arrivé à Liège, la première chose qui m'a marqué, c'est le fait que tout soit centralisé, c'est-à-dire que j'ai vécu à Bruxelles aussi. Et donc, on allait à un concert le long du canal, mais après, il fallait aller à une soirée à Oudergem. Et puis, on passait par un resto à XL. Donc, si on n'avait pas de voiture, ben, c'était foutu comme soirée. Ou alors connaître un pote qui avait une voiture et prendre tout le monde. Donc, Liège a à peu près tous les avantages de Bruxelles, sauf l'avantage principal, c'est que tout est concentré. Donc quelqu'un qui est piéton, plus âgé ou plus jeune, peut se balader dans le centre de Liège, aller au cinéma, aller à un concert, puis aller au resto, aller boire un verre. Il n'est pas obligé d'avoir un moyen de locomotion. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La seconde chose, c'est par rapport à Charleroi, mais pas seulement, par rapport à d'autres villes de Wallonie, on trouve encore des boulangers, pâtissiers, des bouchers, des artisans. Ailleurs, c'est des produits industriels. Donc ça m'a étonné aussi, le fait de dire je vais acheter le pain au chocolat là-bas, mais sinon, à 500 mètres, il y en a un autre, quoi, et c'est pas industriel. Et bon, bah oui, j'ai compris les éléments objectifs, hein, c'est une ville universitaire, donc pas seulement, mais il y a un enseignement supérieur dans l'université, il y a Saint-Luc, il y a la CAR, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est clair que ça joue. Bon, c'est aussi une ville qui a un passé historique. Donc de façon très résumée, je dirais, Liège n'a rien à envier à Bruxelles en termes de plaisir qu'une ville peut offrir à des gens, même au niveau historique, même au niveau, hein, le cursus, enfin, il y a des tas d'endroits où on peut aller voir des expositions. C'est pas uniquement resto ou Horeca, en tout. Bah, c'est une belle ville aussi. Donc elle a pu préserver son patrimoine architectural aussi. Maintenant, je ne suis pas liégeois, peut-être qu'il y a des liégeois qui diront le contraire, mais à première vue, moi, j'ai l'impression que comme dans certaines villes italiennes, je ne connais pas bien la France, mais comme certaines villes italiennes, on est à la fois dans la ville de l'époque et dans la ville historique. Donc je terminerai en disant que bah, je connais bien les villes wallonnes aussi, je connais bien Mons, je connais bien Namur, bon, je connais moins les villes flamandes, sauf Gand et Bruges, mais... Mais en Wallonie, en tout cas, pour moi, Liège est la plus belle ville, quoi. Si on considère une ville avec une certaine importance. Et pour ce qui est de la périphérie, comme Rocourt, Rance, Halleur, ben, je ne vois pas trop de différence par rapport à ma région d'origine. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont travaillé dans la mine. Il y a une communauté italienne, il y a une communauté marocaine. Alors, Fabienne faisait la remarque, comment sont perçus les Liégeois à l'extérieur. Ben, je l'ai vécu aussi dans certaines réunions professionnelles. Hein, il suffit qu'on travaille entre Liégeois, Namurois, Montois et Carolo. Ce sont toujours les Liégeois qui ont le dernier mot à la fin de la réunion. Souvent, en tout cas, pas toujours, mais souvent. Et quand les Bruxellois sont présents, ce sont eux qui ont le dernier mot de toute façon. Mais... après un an en discutant avec pas mal de Liégeois, je crois que je sais pourquoi, et ça n'a rien au départ de négatif. Je pense que le Liégeois se suffit à lui-même parce qu'il a tout. Donc, à part une certaine curiosité intellectuelle pour un domaine bien précis, il n'a pas besoin de sortir de sa ville. Bon, je veux dire, il y a eu une expo sur métal hurlant et à suivre ici à Liège, à moins qu'il y ait une expo spéciale pilote des dessins du Derzo à Mons, je ne vois pas pourquoi les Liégeois iraient à Mons. Voilà, ils sont très bien à Liège, ils ont ce qu'il faut. Et donc, quand on vient de l'extérieur et qu'on arrive à Liège, on découvre d'abord qu'il y a une espèce de bonhomie un peu à l'italienne, je dirais. Moi, je vois ça dans les magasins, par exemple. Le tutoiement est très vite utilisé à Charleroi. Peu importe l'âge que tu as... la personne va te tutoyer comme si elle te connaissait depuis toujours. Mais en même temps, sur un ton un peu... côté irlandais, un peu fermé. Alors qu'à Liège, c'est plus latin, c'est plus ouvert, donc c'est plus souriant. Maintenant, peut-être que c'est une façade, je n'en sais rien. Mais moi, je préfère faire mes courses à Liège qu'à Charleroi parce que j'ai l'impression que je dérange les gens en Charleroi. Alors qu'ici, pas. Voilà, donc ce sont mes impressions, mais encore une fois, il y a certainement des choses que je ne connais pas, qui sont peut-être pas aussi... ben, rien n'est parfait, donc...
Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decir.
L'erreur est urbaine.
C'était Soema Montenegro avec Nina. L'émission touche à sa fin, nous arrivons près de midi, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez évidemment sur le site d'Urbagora toutes les informations concernant à la fois Urbagora mais aussi cette émission en général, ainsi que sur la page Facebook, je vous invite à vous y abonner. C'est facile, ça s'appelle L'erreur est urbaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon appétit et je vous dis au mois prochain. Au revoir.
L'erreur est urbaine.